Vous écoutez, on lit pour vous.
Climat, le délicat bilan carbone de l'industrie spatiale. Un texte de Fanny Costes, paru le 25 janvier 2024 dans Science et Avenir. Les projets pharaoniques de méga-constellations de satellites et l'essor du tourisme spatial posent la question de l'empreinte carbone de cette industrie très gourmande en carburant et qui génère de nombreux déchets. Est-il possible de concilier activité spatiale et préservation de la planète? Enquête. Samedi 18 novembre 2023. La plus grande fusée jamais construite, Starship de SpaceX, un engin de 120 mètres de long et d'une masse de 5000 tonnes, est propulsé vers l'espace. L'image fera date, même si la mission se soldera par un échec quelques minutes plus tard. Car Starship incarne le retour de l'humain sur la Lune et peut-être un jour son premier pied sur Mars. 33 moteurs brûlant 1200 tonnes de méthane liquide si l'on en croit Elon Musk, le PDG de l'entreprise américaine. À quelques semaines de la COP28, l'exploit technologique et le rêve de conquête spatiale sont-ils compatibles avec la brûlante question de la sortie des énergies fossiles? Selon une étude publiée en 2022 par des chercheurs écossais, les émissions de l'industrie spatiale mondiale est estimée autour de 6 millions de tonnes d'équivalent CO2, tech CO2, par an. Si l'on compare ce chiffre à l'impact estimé de l'aviation, entre 1,5 milliard et 3 milliards de tech CO2, l'empreinte environnementale du spatial apparaît comme très faible. Mais cette évaluation n'est sans doute qu'une partie infime de l'impact du spatial. La vérité est que les données sont rares, car très peu de travaux sur cette question ont été conduits à ce jour. Ariane Group est l'une des seules sociétés à s'être penchée sur l'analyse de cycle de vie de l'exploitation d'Ariane 6. Conclusion, un chiffre théorique de 20 000 tech CO2 émises, soit les émissions annuelles de 2000 Français. Et première surprise, la combustion des propergols solides ne compterait que pour 1% du total. Mais alors, où est l'empreinte carbone de la fusée? Pour 46%, elle résiderait dans la production et le ravitaillement des propergols au Centre spatial guyanais. Deuxième poste, pour 30%, les autres activités au sol. Électricité, notamment pour la climatisation, et pendant le vol. Enfin, 21% sont dus à la fabrication et à l'assemblage des structures en Europe, plus 2% associés aux tests et aux transports. Pour les lanceurs américains, russes ou chinois, les données sont plus lacunaires, en raison d'un manque de transparence des groupes ou agences qui les développent et opèrent. Mais, selon une étude publiée par l'Agence spatiale européenne en 2022, l'ordre de grandeur est le même pour des lanceurs de cette taille, comme la Falcon 9 et SpaceX. Une grande variété d'émissions aux effets différents. À première vue, analyser le cycle de vie d'une mission spatiale ne semble pas différent de celui d'une voiture électrique ou d'un avion. Il s'agit dans tous les cas d'évaluer les impacts liés à la phase de fabrication, extraction des matières premières, transport, production, tests opérationnels, ceux liés au fonctionnement et à la fin de vie. Mais le secteur spatial présente des spécificités uniques. Pour aller jusque dans l'espace, une fusée va traverser toutes les couches de l'atmosphère et émettre dans chacune d'elles, explique Loïs Miro, chercheur indépendant spécialisé dans les impacts environnementaux du spatial. En fin de vie, les satellites ou les étages de fusée réentrent dans l'atmosphère et émettent à nouveau des particules. C'est la seule activité anthropique à le faire, les autres, y compris l'aviation, n'émettant que dans la couche où nous vivons, la troposphère. Les premiers bilans d'impact disponibles sont jugés incomplets car le lancement est toujours modélisé de manière très simpliste, ne prenant en compte que les émissions de CO2. Pourtant, deux autres données sont essentielles. D'abord, les ergols, mélange de carburant et de comburant utilisés par les fusées, sont très variés. Les différents étages et propulseurs des lanceurs peuvent aujourd'hui embarquer des ergols solides, qui sont des blocs de poudre obtenus chimiquement, du kérosène ou l'un de ses dérivés, du méthane, de l'oxygène ou encore de l'hydrogène. Cette hétérogénéité va donc conduire à une très grande variété d'émissions, aux effets différents. Ensuite, et c'est très important, l'effet d'une quantité d'émissions donnée ne va pas être le même en fonction de l'altitude à laquelle cette émission sera faite, prévient Loïs Miro. Pour le CO2, rien ne change. Émis à n'importe quelle altitude, c'est un gaz à effet de serre, GES, à longue durée de vie. Mais c'est très différent pour des particules comme les suies, ou noires de carbone, et celles d'alumine, des particules d'aluminium oxydées par l'air principalement émises par des fusées à propulsion solide, Ariane, Delta, Atlas. Ces particules absorbent les rayonnements du Soleil et peuvent donc altérer l'équilibre radiatif de l'atmosphère. Dans la stratosphère, entre 12 et 50 km au-dessus de la surface de la Terre, le temps de résidence des émissions sera souvent compris entre 3 et 5 ans, alors qu'au sol, il n'est que de quelques jours. Chaque particule émise aura donc beaucoup plus de temps pour exercer son pouvoir réchauffant dans l'atmosphère. Les premières vont principalement être émises par des lanceurs fonctionnant à base d'hydrocarbures, Falcon 9, Long March. L'absorption du flux solaire par le noir de carbone est probablement la principale source de forçage radiatif provoquant un réchauffement provenant des lancements de fusées. Et les particules d'alumine, dont on pensait auparavant qu'elles refroidissaient la Terre en dispersant le flux solaire vers l'espace, absorbent le rayonnement terrestre à ondes longues sortant, ce qui entraîne également un réchauffement, écrivait Martin Ross de l'Aerospace Corporation en 2014. Dans une publication, il évaluait ainsi le forçage radiatif des lancements de fusées à 16 MW par mètre carré, avec des contributions relatives de 70% pour le noir de carbone, 28% pour l'alumine et 2% pour la vapeur d'eau, H2O. Une deuxième étude publiée en 2022 par des universitaires britanniques aboutit à un impact moindre, mais elle ne prend pas en compte l'alumine, considérant les effets de ces particules comme trop incertains. Selon ses auteurs, 1 kg de suie émis par les fusées dans la stratosphère a une efficacité de réchauffement 500 fois supérieure à 1 kg émis par le reste des activités humaines dans la troposphère. Des lanceurs propulsés au kérosène, très polluants. Un parallèle avec l'aviation, qui, elle, n'émet que dans la troposphère, est éclairant. En 2023, cette industrie a un forçage radiatif de l'ordre de 100 MW par mètre carré. En faisant la moyenne des résultats obtenus par les deux études précédemment citées, on peut donc situer l'impact du spatial à environ 10% de celui de l'aviation, elle-même responsable de 4 à 5% de l'impact climatique mondial. Avec cette nouvelle évaluation, la part du spatial dans l'impact climatique global serait de 0,4%. Reste que cette photographie omet la croissance que connaissent les activités spatiales. Les évaluations de forçage radiatif du secteur reposent sur une centaine de lancements de fusées par an. Mais depuis 2020, leur nombre augmente fortement. 114 en 2020, 146 en 2021, 186 en 2022 et la barre des 200 a été dépassée en 2023. Sans compter les projets de méga-constellations et de tourisme spatial. Les chiffres sont vertigineux. En 2022, SpaceX a mis en orbite basse 1722 satellites pour alimenter Starlink, dont la première génération totalisera 12 000 satellites en 2030 et la deuxième génération 30 000 en 2040. D'autres méga-constellations sont par ailleurs en déploiement ou en projet. Citons Kuiper pour Amazon, 8 000 satellites en 2032, la constellation chinoise Guowang, 13 000 satellites en 2034, Astra, 13 620 satellites d'ici à 2032, ou encore OneWeb, 6 154 satellites en 2030. D'ici à 10 ans, la feuille de route prévoit donc envoyer environ 70 000 satellites dans l'espace. Aujourd'hui, la majorité des lancements sont effectués à partir de fusées Falcon 9 ou Long March, respectivement développées par SpaceX ou la CASC, China Aerospace Science and Technology Corporation, lesquelles embarquent toutes du kérosène, grand émetteur de suie dans les hautes couches de l'atmosphère. Demain, le lanceur Ariane Next et les nouvelles fusées américaines Starship Super Heavy de SpaceX, New Glenn de Blue Origin, embarquant un mélange de méthane et d'oxygène liquide, seront plus performants écologiquement. Mais ils ne remplaceront que très progressivement les lanceurs existants. Et cela n'empêchera pas les émissions d'alumine ni celles d'essuie. À l'autre extrémité du cycle de vie spatiale se trouvent les rentrées d'engins spatiaux qui, là encore, augmentent à mesure que de nouveaux satellites sont lancés. Celles-ci entraînent de nouvelles émissions ou dépôts dans la haute atmosphère. Nous constatons une augmentation des espèces, en particulier le lithium, le cuivre et l'aluminium, qui ne peuvent provenir que de l'industrie spatiale à des altitudes d'environ 20 km. A déclaré Karen Rosenloff, météorologue de recherche au laboratoire de sciences chimiques de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Pour l'heure, aucune perturbation majeure n'est observée, mais à mesure que les vols spatiaux augmentent, nous allons commencer à constater des impacts. Parallèlement, les projets de développement de tourisme spatial sont aussi une source d'inquiétude. C'est qu'il faut compter entre 30 et 40 tonnes de CO2 émises par passager pour un vol suborbital uniquement, à bord de Virgin Galactic, par exemple, sans intégrer les émissions dans la haute atmosphère. Un chiffre qui passe à environ 650 tonnes de CO2 par touriste pour un vol orbital qui aurait pour destination la Station spatiale internationale, par exemple. Un tel voyage, si on vise l'accord de Paris, qui fixe la limite acceptable d'émissions à 2 tonnes par an et par personne, équivaudrait à plus de 300 ans d'émissions d'une personne, souligne Julien Doche, ingénieur dans le secteur spatial et membre du réseau pour un réveil écologique. Des initiatives et propositions de levier d'action émergent. En avril 2022, le représentant démocrate américain Earl Blumenauer a présenté la loi fiscale sur la protection contre les émissions de carbone, SPACE, qui taxerait les lancements commerciaux humains n'effectuant pas de recherche scientifique. Mais ce projet n'a pas été adopté. En France, le Centre national d'études spatiales, CNES, a lancé des travaux plus poussés sur le sujet. MayaSpace et l'ONERA ont publié récemment un appel à candidature pour un projet de thèse visant à quantifier l'impact environnemental d'un lanceur méthane-oxygène. Et le réseau pour un réveil écologique vient de rédiger un rapport sur l'impact environnemental du spatial. Nous y proposons 12 leviers d'action, parmi lesquels le besoin de réglementation internationale et la définition de potentiels quotas pour les lancements, confient Julien Doche et Prunel Vogler, deux des rédacteurs du rapport. L'heure du réveil écologique de l'exploration spatiale a véritablement sonné. C'était Climat, le délicat bilan carbone de l'industrie spatiale. Un texte de Fanny Costès, paru le 25 janvier 2024 dans Science et Avenir.
L'intelligence artificielle au service des séries d'ici, un texte de Marc-André Lemieux, paru le 25 avril 2024 dans la presse. Longtemps démonisée, l'intelligence artificielle est mise au service des séries télé québécoises. Des fictions comme L'Empereur, Une affaire criminelle et Indéfendable s'en servent déjà, pour toutes sortes de raisons. C'est ce qu'on a appris le mercredi 24 avril 2024 au 24e congrès annuel de l'Association québécoise des productions médiatiques, AQPM, organisé à Saint-Hyacinthe. Lors d'un panel de discussion, les productrices Sophie Deschênes et Laurence Deschênes-Tremblay de Sovimage, avant le crash, fait divers, ont présenté leurs observations après avoir testé divers outils basés sur l'intelligence artificielle, IA. La paire s'était prêtée au même exercice l'année précédente en utilisant ChatGPT pour aménager des horaires de tournage, une tâche souvent complexe et laborieuse, aux allures de casse-tête, en raison des disponibilités des comédiens et des techniciens, des emplacements, etc. Les résultats s'étaient toutefois avérés non concluants. Les calendriers comportaient plusieurs erreurs. 12 mois plus tard, les nouvelles expériences ont donné des résultats plus probants. Sur Une affaire criminelle, série policière d'anthologie diffusée sur Nouveau, l'intelligence artificielle est venue sauver les meubles en post-production pour nettoyer les bruits ambiants d'une scène importante. La séquence avait été tournée au bord de l'eau, au cours d'une journée particulièrement achalandée côté trafic maritime. Conséquence, on entendait les bateaux gronder lorsque les comédiens livraient leurs répliques. Après avoir essayé de corriger le problème de différentes manières, l'équipe s'est servie d'un module d'extension, plus communément appelé plugin, exploitant l'IA, et quelques minutes plus tard, le tour était joué. Ce bidule a sauvé toute la scène, a commenté Sophie Deschênes. Si on avait eu l'intelligence artificielle quand on tournait Les Pays d'en haut, ça nous aurait simplifié la vie, a ajouté la productrice. Chaque fois qu'un avion passait, on devait tout arrêter. Parce qu'en série d'époque, tu n'es pas supposé entendre un avion voler. L'IA s'est aussi montrée utile sur L'Empereur, pour corriger, en post-production, une scène dans laquelle un personnage prononçait un nom fictif de commerce qu'il fallait changer puisqu'il n'avait pas passé le test de l'avocat, car il existait déjà. En 30 secondes, ChatGPT a généré 5 options valides de substitution, lesquelles respectaient notamment le nombre de syllabes du terme inscrit au départ, un prérequis puisqu'il s'agissait d'un plan rapproché et qu'on voyait les lèvres de l'actrice bouger. Des résumés d'épisodes. En prenant soin d'obtenir l'autorisation des personnes concernées, Sovimage a également effectué des tests pour concocter des résumés d'épisodes d'avant le crash avec l'IA générative. Après quelques essais infructueux, Laurence Deschênes-Tremblay a trouvé un programme payant capable de synthétiser une heure de série en quelques phrases. Sovimage n'est pas l'unique boîte de production à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Pixcom, Alerte, s'en sert déjà pour générer des résumés d'épisodes d'Indéfendables, nous confirme son premier vice-président, Contenu et Création, Charles Lafortune. L'entreprise l'utilise également pour retranscrire et synthétiser des séances de remue-ménage, expérience que Sovimage a tentée avec plus ou moins de succès au moyen des programmes MeetGeek, Zoom et Microsoft Teams. Formation à venir. L'utilisation de l'intelligence artificielle devrait gagner du terrain en télévision au cours des prochains mois, puisque l'Institut national de l'image et du son, INIS, proposera d'ici quelques semaines une première formation pour démystifier cette technologie, a-t-on appris. Compte tenu des questionnements que l'intelligence artificielle génère dans notre milieu, nous souhaitons montrer, de manière générale, quel type d'usage nous pouvons en faire, précise le directeur général de l'établissement d'enseignement, Jean Hamel, joint au téléphone. Pour l'INIS, il s'agit d'une première étape en prévision d'ateliers plus pointus qui seront donnés l'automne prochain. Nous avons le mandat de développer des formations qui peuvent être utiles à plusieurs joueurs du secteur audiovisuel, des producteurs, des scénaristes, des techniciens, des réalisateurs, indique Jean Hamel. L'initiative suscite déjà beaucoup d'intérêt, notamment chez KOTV, Zénith, l'œil du cyclone. Le directeur général de l'entreprise, Louis-Philippe Drolet, compte y inscrire quelques personnes, non pas pour remplacer l'humain, mais pour accélérer et optimiser certains processus. Mauvaise presse. L'intelligence artificielle n'a pas toujours eu bonne presse au cours des dernières années. Elle s'est d'ailleurs retrouvée au cœur des grèves à Hollywood en 2023. Du côté des scénaristes comme du côté des comédiens, on craignait qu'elle soit utilisée de manière abusive et qu'elle mette en péril des emplois. L'INIS estime avoir un rôle à jouer dans cette discussion. C'est un outil avec lequel on sera amené à travailler, souligne Jean Hamel. On veut montrer les meilleures pratiques à adopter. Malgré quelques expériences concluantes, la productrice Sophie Deschênes avoue craindre encore aujourd'hui l'intelligence artificielle. « Je reste prudente », affirme la présidente de Sovimage en entrevue. « Ça peut nous aider dans certaines situations. Ça peut nous donner des pistes pour perfectionner nos méthodes et gagner du temps. Mais je pense que l'humain va toujours devoir repasser dedans. Et pour tout ce qui concerne la création, je dis non merci. Nos auteurs sont talentueux, ils ont de bonnes idées. » C'était l'intelligence artificielle au service des séries d'ici, un texte de Marc-André Lemieux, paru le 25 avril 2024 dans la presse.
Le transport, ça doit être collectif. Un texte de Caroline Senneville et Simon Mathieu Malenfant, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir. La première est présidente de la Confédération des syndicats nationaux, CSN. Le second est vice-président de la Fédération des employés et employées de services publics, FEESP, CSN. Collectif. Voilà ce qui est au cœur de l'épineuse question du transport collectif. Il s'agit d'un outil dont se dote la société pour favoriser le transport des citoyennes et des citoyens d'une façon à la fois écologique et économique. C'est un investissement dans notre avenir comme société durable. C'est un choix que nous devons faire collectivement. C'est donc un choix que les différents ordres de gouvernement doivent faire pour la collectivité. La ministre Geneviève Guilbeault et la Coalition Avenir Québec, CAQ, ne peuvent pas appliquer bêtement une vision des années 1970. Le transport collectif n'est pas une simple dépense qu'il faut gérer en tentant de minimiser le déficit. Nous avons collectivement une obligation de résultat parce que c'est un outil fondamental pour atteindre nos objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre, GES. Au pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, les réseaux de la métropole ont travaillé de concert pour minimiser les impacts de cette fermeture majeure. Les usagères et les usagers étaient pratiquement unanimes. Le transport en commun, lorsqu'il est aussi bien structuré et qu'il répond à leurs besoins, devient l'option la plus intéressante. Le reste est simplement mathématique. Le fait qu'il y ait plus de gens dans les transports en commun entraîne une réduction directe du trafic automobile, principale source de GES. Le transport collectif est donc un outil direct pour aider à atteindre nos objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Pour ce qui est de l'aspect économique, la dépense pour maintenir et améliorer les transports n'est presque jamais remise en question pour les routes, les ports ou les aéroports. C'est une bonne chose pour le transport des marchandises et des personnes. Alors, c'est une dépense nécessaire à l'économie. Pourquoi alors, lorsque vient le temps d'aborder le transport en commun, qui a souvent pour objectif le transport du plus grand nombre de gens vers les zones de grande activité économique, cherchons-nous à tout prix une forme de rentabilité ou refusons-nous d'assumer la dépense comme étant une réalité collective, une nécessité? Le journaliste spécialisé en économie Gérald Filion faisait connaître récemment la décision de certains pays de baisser le coût à l'utilisation du transport collectif ou même de le rendre gratuit. L'Allemagne, par exemple, a mis en place un tarif de 72 $ par mois pour se déplacer partout dans le pays en autobus, en métro ou en train. C'était près de 300 $ avant. Le gouvernement fédéral allemand a payé 2 milliards $ pour rendre cela possible. C'est un geste décisif pour arrêter de reporter la baisse des émissions de GES. Les gouvernements du Québec et du Canada devraient donc contribuer financièrement davantage pour soutenir le transport collectif, afin non seulement d'éviter les coupes de services causées par les déficits actuels, mais aussi de permettre le développement à moyen et long terme de ces structures. Sans oublier que le transport en commun, c'est une source importante d'emplois de qualité, emplois que la CAQ se targue de créer. On pense certes aux opérateurs et aux conductrices et conducteurs, mais aussi à tout le personnel qui entretient, répare et nettoie les structures et les équipements, au personnel qui entretient les voies de transport, ou encore aux industries québécoises qui développent l'expertise et les outils sur lesquels repose le déploiement de nos transports collectifs. C'est un pan très important de notre économie que nous gagnerions à développer. Tout cela, ce n'est pas une dépense pour nos gouvernements, c'est un investissement. Finalement, il faut absolument éviter que les différents gouvernements continuent de se renvoyer la balle pour tenter d'éviter d'être celui qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Ils doivent changer leur perspective et travailler de concert afin que le transport collectif soit vu comme une solution à long terme à de nombreux problèmes actuels. Faisons de nos transports collectifs un projet collectif. C'était « Le transport, ça doit être collectif », un texte de Caroline Senneville et Simon-Mathieu Malenfant, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir.